Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire des textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre.
Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous couper, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
Le théâtre ne peut être pas que pompeux ?
Ah bah le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. Le théâtre c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens, il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit comme un miroir sur le public.
D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors.
Merci mon cher Nicolas. Nicolas !
Ça n'engage à rien.
Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission « Ça n'engage à rien » et qui j'espère vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
Round 9.
Tu parlais pas, tu retroussais tes lunettes.
T'étais comme ça, tu parlais pas, tu plissais les yeux.
Maintenant, vous allez le faire.
Tu disais maintenant, voilà, ok. D'accord. Au final, tu nous as jugé un peu quand même.
Oui, t'as trouvé plein de trucs.
Tu nous jugeais un peu de ce que tu faisais, genre.
Et tout le monde, on regardait tes expressions pour voir. Et des fois, tu faisais des têtes en se disant.
Oh, elle n'arrivait pas. Ouais, mais c'est vrai que c'était dur de savoir exactement ce que tu pensais à ce moment-là. On se disait, mais qu'est-ce qu'il veut, putain ?
Je pense que moi, je savais ce que je voulais, en fait.
Bah oui.
Bien sûr que tu sais ce que tu veux, arrête de nous faire croire que tu sais pas ce que tu veux. Tu sais très bien ce que tu veux, arrête. J'ai toujours fait croire, oh, je sais pas qui choisir, mais tu savais très bien. Tu sais, en fait, c'est ton cœur qui parlait. Toi, tu parlais, c'était avec ton cœur que tu choisissais.
Bah oui.
Donc tu sais ce que tu voulais, au final.
L'important, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'on devait prendre ce temps-là comme étant un temps fini. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer pendant ces 5-10 jours où on est ensemble et on ne donne pas d'autre perspective que ce moment-là. Et se rapprocher les unes des autres, les filles, parce qu'elles parlaient la même langue. Même si elles étaient différentes, elles comprenaient qu'elles parlaient la langue, qu'elles avaient des vécus et qu'elles n'avaient jamais eu vraiment l'occasion de parler de façon précise et frontale de ces questions-là. Ce qui faisait donc à l'issue de l'audition, il y avait une fin dans l'audition. C'était quelque chose qui était ouvert pour chacune. Et donc cette fin, c'était une ouverture. Hein. C'était un nouveau commencement parce que pour toutes, quelque chose de nouveau a été enclenché à partir de cette rencontre-là. Et du coup, ça génère un dialogue. Et c'est ce qui se passe à l'issue des représentations. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de performance spectacle dans laquelle les bouches des interprètes sont déliées et du fait qu'elles soient déliées là, ça délie les bouches des spectatrices et des spectateurs.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous.
Salut les filles.
Ouais, salut mon Nico. Je suis vraiment enchanté de vous retrouver pour ce nouvel opus. Vous venez d'entendre Shirine et Inès, comédiennes, et Monsieur Ahmed Madani, directeur et metteur en scène de la compagnie Madani Company, qui vont vous accompagner dans cette nouvelle aventure consacrée au spectacle-événement Flamme, qui se jouera le 27 et 28 avril au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly.
Ouais, ma gueule.
Yes. Alors, vous le savez, votre émission « Ça n'engage à rien » sur Radio HDR 99.1 est en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen. Yes, I.
Et ouais, il y en a qui se la pètent quand même.
Dans ce nouvel épisode, nous poursuivons donc notre immersion au cœur de la saison 2016-2017 du CDN, toujours à la rencontre des spectacles et des artistes qu'ils accueillent. En mode immersif, c'est dans une loge de la Maison des Arts de Créteil, théâtre où elle se produisait fin janvier à l'occasion d'une série de représentations, que nous avons rencontré Inès, Shirine et Ahmed Madani pour partager et échanger
échanger avec eux sur la création de cette pièce et sur ce spectacle pas comme les autres où la parole est donnée à de jeunes habitantes de quartiers dits « sensibles » issus des immigrations. Vous l'aurez compris, c'est à une aventure particulière, humaine, sincère et poétique, entremêlée d'interviews et de conversations entre nos protagonistes, à laquelle je vous invite dans ce nouvel opus intitulé tout simplement « Flamme ».
Alors, il vous attend, c'est porte 206, deuxième étage à droite.
Là-bas ?
C'est ça.
D'accord.
Je vous donne la petite brochure contre le racisme.
Non, merci. Avec plaisir, bon après-midi.
Avec plaisir, bon après-midi.
Donc, on va recommencer, Dunia. Et cette fois, n'oublie pas quelque chose de très important. C'est le...
Le sourire. Non, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait du fois qu'on fait.
Bon, Dunia, s'il te plaît.
T'as compris ou t'as pas compris ?
Ah, moi, j'ai compris. Hein.
Oui, mais on va recommencer du début, Fiska.
Tu retournes à ta place.
Tu retournes à ta place, Fiska.
Et toi, Dunia, tu prends sa place. Allez. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous ?
Alors, déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord ? Je crois que vous avez oublié le smile, hein ? La base, c'est la base.
Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça. Que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à deux autres.
Non, mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde.
Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie ? J'aimerais bien savoir. Toi ?
Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money.
Money, money, money.
Ce n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis.
Ah ouais ? Parce que toi, t'en as vu beaucoup, des millionnaires qui font BP accueil.
Il y a plein de gens très bien qui le font.
C'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas une millionnaire.
Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider.
Mais nous aider à quoi ? Nous aider à être des arbres de la société, c'est ça ?
Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, eh ben t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Allez, va t'asseoir.
Parce que toi, t'arrives à quoi dans ta vie, toi ? T'arrives à quoi dans ta putain de vie, toi ? Hein ? Regarde ta gueule, regarde tes fringues.
Bon, maintenant, tu vas chez le proviseur, j'en ai marre.
Elle a que dalle ! Mais moi, j'ai pas envie d'être comme toi. Moi, j'ai pas envie de manger, j'ai de la fierté.
Je veux plus te voir, tu me sers de ma classe, putain !
La vie de ma mère, la vie de ma mère, putain, un jour, bah, je me ferai plus de thunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute ta vie, t'en auras jamais rêvé, même dans tes rêves les plus profonds. Et c'est quoi, non, plus jamais je rentre dans tous ces de merde, là. Tu vas voir.
Pendant toutes ces années de metteur en scène, d'artiste, voilà, qui est un peu repéré, qui va dans l'institution, qui dirige un théâtre et tout, et qui vise l'excellence, enfin, cette chose-là qu'on nous donne comme étant extrêmement important d'être des grands artistes, finalement, je trouve que c'est un peu bidon, en fait. Parce que déjà, le monde du théâtre, il est captif d'une catégorie de la population. Et donc, du coup, il appartient à cette partie-là, bon, qui est un peu soit une petite partie d'intellectuels, une partie bourgeoise, etc. Et donc, du coup, il ne se partage pas beaucoup avec le reste. Et donc, il faut rentrer dans les codes de fonctionnement de ces gens, là, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils, voilà, de ce qu'ils reçoivent, de leurs habitudes, en fait. Et du coup, finalement, c'est assez brutal, c'est même assez violent ce que ça impose aux autres qui sont extérieurs à ça, qui ne connaissent pas le chemin pour aller dans ces lieux. Mais ça commençait vraiment à me lasser parce que ce qu'ils attendaient, ces gens de ces lieux, c'était des choses assez policées, assez organisées. Oui, j'étais directeur du lieu, mais quand je suis sorti en tant que directeur de compagnie, je faisais mes spectacles qui rentraient dans le cadre de profils de programmation particulière, avec des esthétiques, etc. Ça correspondait à ce qu'il y avait une demande. Et finalement, je m'intéressais de moins en moins à ça, parce que je me sentais sclérosé moi-même dans mon travail d'artiste, à vouloir imiter les autres et tout ça. Et je dis, bah, écoute, il faut peut-être que tu remettes tout à zéro et que tu repartes vers des endroits qui t'intéressent, les endroits plus complexes, là où ça fait vraiment mal, là où ça interpelle la société, et là où il y a des jeunes qui sont... en souffrance ou en désir, qui ont des envies, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de trouver des bonnes réponses aux questions qui se posent, quoi.
Alors moi, c'est Inès, j'ai 19 ans et j'habite à Montreuil. Comme à peu près tous ceux qui ont mon âge, bah, à la fac, en train de faire des études, quoi, de théâtre et de cinéma. J'étais en double, je sais pas, comme double cursus ou je sais pas quoi, ouais. Donc je faisais théâtre et cinéma à la fac de Nanterre. Et Dana, qui fait aussi partie du spectacle, était dans ma classe. Et on cherchait des bons plans. Je sais pas, on avait envie de ne pas galérer après notre licence. Donc, on cherchait des trucs, des stages, des écoles. On se tenait au courant sur plein de trucs, des castings, de la figuration, n'importe quoi qui avait un rapport avec le domaine du théâtre ou du cinéma. Et donc, elle m'a appelée pour le stage. Moi, je suis venue relax, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire du théâtre. Je vais faire un stage, ça va être cool. Et voilà. Donc, à ma grande surprise, bah, en fait... J'ai vu des filles qui venaient faire le stage, sauf que moi, je suis venue le jeudi, il me semble, et le stage avait commencé le lundi. Et je n'ai pas très bien compris il s'agissait de quoi, mais je savais juste que bah, j'ai juste fait ce que Ahmed m'a demandé. Et voilà, quoi. Dana, elle m'a dit « Allô, tu fais quoi ?» J'ai fait « Rien, je galère. » Elle m'a dit « Viens à Sevran et tout. » J'ai fait « Ah ouais, c'est loin et tout. » Elle m'a fait « Mais viens, il y a un stage de théâtre et tout, c'est gratuit, je sais pas quoi. » Je suis venue. Parce que j'avais rien à faire, tout ça. J'ai pas compris. Moi, je suis venue, on m'a dit, dis ton prénom. Je donne mon prénom, on me dit, parle plus fort, chante une chanson. Je sais pas, elle a dit, c'est quoi ça, c'est une blague? Pendant un moment, je me dis, mais c'est une blague. Genre, en plus, il me dit de dire mon prénom. J'avais l'impression que je disais, je passais le bac. Ou je me dis, mais pourquoi je sentais une tension, mais j'avais pas compris en fait pourquoi. Mais après, j'ai compris que c'était. Que même dire son prénom, c'était quelque chose de. Avant? Je levais jamais la main en classe quand ils demandaient qui est français. Personne ne levait la main. Du coup, moi, bah, je levais pas la main. Il y avait déjà un problème à cette époque, mais je savais pas encore lequel. J'ai 19 ans. J'habite à Montreuil dans le 9-3. Quand j'avais 9 ans, je voulais être un garçon. Je me disais, c'est sûrement mieux. J'avais que des grands frères. Je faisais tout comme un garçon. J'aimais bien être une fille. Mais si on m'avait dit, tu fais tel truc, comme une fille, parce que t'es une fille, ça m'aurait blessée. Ça aurait été une insulte. J'en aurais pleuré même. J'étais dure. Je faisais la chef avec mes copines. Toi tu joues pas. Et j'organisais des courses contre les garçons pour leur montrer que je courais plus vite qu'eux. Je me laissais pas faire. J'avais un meilleur ami, il s'appelait Dylan. Le jour où j'ai appris qu'il était amoureux de moi, je suis allée le voir. Je lui ai cassé deux dents. Je voulais pas être un garçon, mais il fallait pas que je sois une fille, comme les autres. Ouais, ça c'était un compliment, ne pas être comme les autres filles. Quand je me battais contre mes frères, ils me donnaient des coups. J'avais mal, mais je ne disais rien, j'encaissais. Du coup, au collège, j'étais vénère contre tout le monde. Les frères, la famille, le quartier, les amis, les profs, tout le monde. Mais ma mère, elle me poussait toujours à l'école. Inès, premier. Moi, je veux que mes enfants aillent à l'école. Chaque matin, je me réveille et je demande à Dieu que mes enfants n'ont qu'à avoir la tête pour réussir. Moi-même, je suis partie à l'école. Je fais CP1. CP2. Mais chaque fois, je tombais malade. Je suis partie voir professeur Girassi. Il m'a dit, quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Quelqu'un a volé mon intelligence parce que j'ai fait l'école. Mais j'ai tout oublié. Mais quand même, j'ai la tête. Et puis, on est venu ici. Ce n'est pas pour pousser, poussette des enfants des gens. Moi, ce que je fais, je veux pas que mes enfants poussent, poussette aussi. Hein? 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 Moi, à l'école, j'explosais. C'était catastrophique. Je répondais. J'avais des automatismes de défense. Je me sentais toujours agressée. J'étais insolente. Et rebelle. Mais j'arrivais toujours à avoir 14 de moyenne. J'avais fait ma primaire dans une école pas en ZEP, et du coup, j'avais des restes de bonnes bases. Mais ce que je détestais le plus, et ce qui me révoltait le plus, c'est ce côté, t'es noir, t'es pauvre, donc tu fais de la peine. Ou le regard que certains profs avaient sur moi. Je suis partie dans un club de basket à Vincennes, une ville un peu plus que Montreuil. Il n'y avait presque que des blancs. Ils ont voulu recruter des noirs et des arabes pour leur qualité physique. Et mon amie à moi, en fait, elle n'avait pas assez pour payer les 264 € de sa licence. Et la directrice, elle a dit à son père, « Oh, mais il n'y a pas de souci, monsieur, si vous voulez, on peut s'arranger. Elle peut faire le ménage. » Son père, il la regarde, il lui répond. Non, c'est bon,
On va se débrouiller. On va payer. Elle aurait jamais dit ça à une Laure ou à une fille du coin. En plus, on trouvait ça super cool qu'elle vienne nous chercher en voiture à la sortie du collège à Montreuil. Mais on a vite compris. Elle avait juste besoin de nous. On était fortes. Mais on était quand même vues comme des petites Africaines de Montreuil. Mais vos parents ne viennent pas vous voir jouer aujourd'hui, les filles ? Sans parents pour les accompagner à leur sport. Mais qui jouaient bien. Et qui remontaient le niveau de l'équipe. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire pitié. Et là, aujourd'hui, sur cette scène, j'ai pas envie de faire pitié.
Ça n'engage à rien.
J'ai beaucoup cru au théâtre populaire pendant de nombreuses années, puis je me suis aperçu que finalement, c'était impossible, ça n'existait pas, que c'était un monde fort clos, que le monde du théâtre qui était extrêmement fermé sur lui-même. Et que là, dans cet échange que j'ai avec cette jeunesse, je m'aperçois que d'abord, les spectacles, ils ont une certaine dynamique, une certaine impertinence, et puis une force qui surprend et qui déclenche l'appétit de théâtre de la part de la jeunesse. Parce que les jeunes, quand ils sont dans la salle de spectacle, ils sont en résonance parfaite avec ceux qui sont sur le plateau. Et puis, les plus âgés qui ont l'habitude de fréquenter le théâtre, ils sont touchés par cette force de la jeunesse, par cette envie de vie et par cette joie. Vraiment une espèce de grande joie d'être là, avec sa chair, avec sa puissance, avec ses travers, avec ses mots imbéciles qui peuvent sortir, etc. Mais son espérance aussi. Les jeunes hommes et les jeunes femmes sont des gens qui sont très, très intelligents, qui ne sont dupes de rien, qui comprennent comment fonctionne la société et qui ont un regard sur cette société, qui voient bien les manipulations qui sont opérées, etc., qui voient bien la fonction des médias, qui voient bien la fonction des institutions, et qui ont un regard extrêmement critique, et qui voient bien que leur place là-dedans, elle est pas du tout évidente, qu'il n'y en a même presque pas. Et du coup, cette pensée, c'est une espèce de pensée sauvage, une pensée brute, elle est extrêmement, pour moi, elle est extrêmement positive, parce qu'elle secoue le cocotier, à la fois de l'institution du théâtre, à la fois des formes de notre théâtre d'aujourd'hui, et qui a dit, mais attendez, mais c'est bon, quoi, on a compris votre truc, là, votre vieille école, vous devez machin, on va tout péter ça, nous on a envie de faire autrement, on a envie de penser les choses autrement, c'est pas parce que vous avez des grands théâtres, des grandes institutions, des grands beaux murs avec des belles fenêtres, des belles affiches, que vous allez nous apprendre ce que c'est que la vie et le théâtre. C'est pas vrai. Nous on est là aussi, on a des trucs à vous dire, et il va falloir nous entendre, parce que le monde de demain, c'est pas vous qui allez le faire, c'est nous. C'est notre monde et on a envie de le changer. Et j'espère même qu'on ne va pas tomber dans les mêmes travers que vous. Bon, nous, on a envie de vivre. On a envie de vivre. On veut avoir notre place dans votre monde. Ne nous écartez pas des plateaux, ne nous écartez pas des écrans, ne nous écartez pas des télévisions et des radios. Nous avons des choses à vous faire entendre et il y a une histoire qui a été oblitérée, que vous ne voulez pas reconnaître, vous ne voulez pas entendre. Il y a une page dans un manuel alors qu'il devrait y en avoir 50. Mais il y a aussi toute la jeunesse, je pense qu'il y a aussi toute l'histoire de la jeunesse, parce que l'histoire des parents enfin, et des grands-parents qui plombent cette histoire de la jeunesse, ils ne la connaissent pas les jeunes, cette vieille histoire d'avant. Et qui mine tous les rapports, quand on sait que l'extrême droite, elle a fait son lit sur les guerres de décolonisation, sur la guerre d'Algérie, etc. Et personne ne sait d'où ça vient, les gens qui ont fait la torture, Le Pen, etc. Et qui se retrouvent aussi aujourd'hui comme si on avait oublié cette part de l'histoire nationale. Et donc, du coup, ben, si on ne fait pas le lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, on ne comprend rien. Donc, c'est vrai que quand vous étiez dans cette position d'être observé par moi. Évidemment, je savais qu'il y avait peut-être 25 ou 30% de votre comportement qui était flouté parce que c'était les conditions de l'observation dans lesquelles vous étiez qui faisaient que... Mais c'est quand vous allez passer une audition ou quand vous allez chez le médecin, tu vas avoir une consultation pour un médecin parce que tu as une maladie grave ou je sais pas, tu as déjà un taux fort de stress. Rien qu'au moment où tu vas consulter le médecin, parce que tu as peur de ce qu'il va t'annoncer, etc. Donc déjà, ça te fait flipper. Et je pense que vous étiez dans cette position-là. Donc moi, bien sûr, j'arrivais à faire la part des choses de ça. Et puis, il y avait l'autre point de vue qui était quand vous donniez quelque chose à moi, vous le donniez à toutes les autres. C'était obligatoire. En fait, ouais. Le gros truc, c'était ça. C'était d'accepter de me donner quelque chose à moi parce que vous l'auriez fait avec plaisir pour moi. Pour passer, pour être dans ce jeu-là. Mais vous étiez très embêté parce qu'il y avait quand même toutes les autres qui étaient témoins de ça. Et du coup, tu n'avais pas forcément envie certaines fois, tu n'avais pas envie de leur dire ça, mais tu étais quand même un peu obligé de le dire. Mais en même temps, quand vous faisiez ça, il y avait un mécanisme qui se mettait en place, c'est que une forme de compétition dans la révélation.
Parce qu'à chaque fois, vous étiez tout le même exercice, voilà. Tout le même exercice, ça s'enchaînait. Et donc, on se disait, putain, elle a dit ça, il va falloir que je dise plus, moi. Elle a dit ça, il va falloir que je dise plus. Mais du coup, on est...
Moi, j'ai pas la raconter.
Mais c'était horrible parce qu'on se disait, mais putain, elle a ça comme vie, mais moi, peut-être à côté, j'ai pas autant, en fait.
Donc, ouais, c'est exactement
pourquoi je vais toucher Ahmed par mon histoire alors qu'elle vient de vivre un truc de ouf, son père ou sa mère elle est morte, enfin mes parents ils sont en vie, ils sont très bien, je suis très heureuse avec ma famille, qu'est-ce que je dois dire quoi.
Dana m'a dit non mais c'est mort, regarde, t'as vu, parce que je parlais avec elle pendant les auditions et tout, elle m'a dit t'as vu, c'est, moi c'est mort, j'ai rien à raconter, je sais ce qu'ils cherchent, ils cherchent des filles de banlieue qui ont des histoires tristes, moi je sais pas, mais jamais rien arrivé. J'ai fait ouais mais Dana non, reste positive. Et moi j'étais là, le dernier jour je me suis dit ah, mince en fait, j'ai pas pleuré et tout, il va dire cette meuf elle pleure pas et tout, il a dit non, et je me suis dit j'ai pas pleuré, j'aurais dû pleurer, toutes les filles ont pleuré sauf moi. Je me suis dit, purée, pourquoi j'ai pas pleuré?
À 14 ans, on me disait, t'es pas jolie avec tes cheveux frisés. Tu ressembles à Tighty Bob, le méchant des Simpsons. Alors le premier truc que j'ai fait, je me suis teinte en blonde et j'ai fait un défrisage. Mais après, dans les mariages, on me disait, toi, t'es pas une blonde de Dieu.
Mes cheveux, je les montre pas. Ils ne regardent que moi. Parfois, je me demande si le vent qui soufflait sur eux ne me manque pas un peu.
Mes frères me disaient « Coiffe-toi, wesh, t'as pas d'argent ou quoi? T'appartiens à la FFF, la Fédération des Fatous Flingués. » Coco Chanel a dit « Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. » J'ai pris cette phrase pour moi. Je me suis coupé les cheveux, après j'ai regretté.
Il faut demander à Dieu pourquoi on a des cheveux comme ça. Au collège, c'était mort, j'y allais pas. Je préférais sortir toute nue qu'avec mes cheveux en pétard. J'avais trop la honte. La première fois que j'ai vu une boîte de défrisant, j'ai cru que mes cheveux allaient devenir lisses et soyeux, comme ceux des blanches. Mais c'était pas vrai, ça a jamais marché.
Petite, j'avais pas le choix, on me les défrisait. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Mes grandes sœurs se sont moquées de moi, elles m'ont dit « tu ressembles à un caniche ». Moi, je m'en foutais, au lycée, on m'aimait comme j'étais.
Je voulais être blonde aux yeux bleus et avoir des cheveux qui volent au vent. Je ne pouvais plus me voir avec des cheveux naturels. J'aime même faire des mèches. Le problème, c'est le jour où tu les enlèves. On découvre que c'est pas tes vrais cheveux. Et là, t'as encore plus honte de toi.
Ma mère, sans sa perruque, a l'impression d'être en pyjama. Elle me dit, si je la mets pas, je me sens comme une esclave.
Donc je suis parti depuis 2012 en fait dans ce sillonnage auprès des jeunes des quartiers populaires. D'abord les garçons, j'ai fait donc Illumination, puis là maintenant avec les filles où il y a Flamme. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je rencontre des gens qui sont pas forcément savants du théâtre, mais qui ont d'énormes autres connaissances et qui sont très enrichissantes pour moi. Donc je suis plus dans le côté très savant de l'art, de la culture, du machin, de comment il faut écrire et patati patata, mais dans des choses plus pragmatiques, plus simples et qui au final deviennent extrêmement poétiques parce que c'est une parole du cœur, c'est une parole de la tendresse, même quand il y a de la violence, même quand il y a de la rage, même quand il y a de la colère, même quand il y a de l'envie. C'est vivant, c'est vraiment là, c'est vivant, ça interroge, puis il y a une façon d'être dans son corps, de bouger, de parler, il y a une espèce d'aisance comme ça, et donc de rupture avec certaines normes et certaines postures ou attitudes qu'ont les gens qui font et qui pratiquent le théâtre. Et du coup, ça, c'est très excitant. Puis on continue à parler de soi, de sa mère, une histoire, racontez-moi l'histoire de votre grand-mère. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé que je ne la connais pas. Inventez l'histoire de votre grand-mère, de ce que vous savez, de ce que vous imaginez de votre grand-mère. Je ne l'ai jamais connue, mais d'où vient-elle? Alors, c'est la grand-mère de votre côté paternel ou maternel? Ah, je prendrai celle du côté... Alors, elle venait d'où? Dans quelle région? Là, comment vous imaginez sa vie? Que dit-elle? Elle vient nous parler. Vous connaissez son prénom? Oui. Alors vous dites, je m'appelle un tel et je viens et je vais vous raconter qui je suis. Donc on convoque les ancêtres. Et il y en a qui savaient des histoires des ancêtres, d'autres qui n'en savaient pas. Il y avait des histoires, à chaque fois c'était des miracles des histoires, c'était tellement dense, tellement différent. Et du coup, ça se construit progressivement. Et là on commence, dans ce temps, à dire... Ça va être notre équipe. Et donc, on travaille. Et là, on commence un peu à lancer des pistes, tout ça. Enfin, et puis, j'avais besoin de voir comment ce groupe fonctionnait, ces 10-là. Comment ça fonctionnait physiquement entre elles. Elles étaient tellement différentes dans la façon de parler, dans leur présence, dans leur corps. Ce n'était pas des super bombes sexuelles, etc. Mais elles avaient une grâce. Je commençais à voir ça, cette grâce, cette beauté, cette générosité qui s'offrait comme ça sur le plateau. Et je voyais bien comment ça pouvait se dessiner pour certaines d'entre elles plus tard. Et donc moi, je suis tout le temps en train de lire des trucs, d'écouter. Enfin voilà, je me perds dans plein de pistes différentes. Et en sachant que le matériau vivant et brut, il est là, juste à côté de moi. Mais je le fuis un peu, je le mets à l'épreuve en permanence.
ça n'engage à rien.
Il y a des collaborateurs artistiques qui entrent, qui commencent à arriver, la danse, le chant, la partie chorégraphique, voilà, les costumes, enfin tout ça. Et puis l'équipe se construit, la, voilà, la vidéo, et tout s'élabore assez, finalement, assez simplement, avec des petits temps comme ça de, d'arrêt d'une semaine, où j'essaie d'écrire, où je reviens, on réfléchit, et puis ça se construit, et elle s'abandonne. Elle s'abandonne, et depuis le début, ce qui était absolument merveilleux, c'est qu'il y avait une confiance totale. Aveugle, totale, dans tout ce que je pouvais proposer. Et elle voyait bien que je cherchais. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que là, comme elles sont un peu néophytes de ça, ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc elle dit, mais non, c'est toi qui fais, on te fait confiance. Vas-y, nous on est à ta disposition, tu veux qu'on parle, on parle. Tu veux qu'on danse, on danse, tu veux qu'on chante, on chante. On va faire ce que tu veux. Et moi j'expérimentais, j'écrivais, je revenais des fois avec un texte, des fois pas du tout, ou je travaillais longtemps sur un truc et finalement j'abandonnais, je dis, ben non, il n'y a rien qui est sorti. Et puis en fait, à un moment donné, la proposition se met en place. Mais pendant tout ce temps, on a toujours... chercher comment être sur le plateau. Et ça, elles l'ont toujours fait. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté de travailler sur sa présence, sur sa posture, sur la relation aux autres, sur le regard au public, sur tout ça. Tous ces exercices, tous ces jeux qui avaient été déjà, dès les rencontres auditions, déjà c'était en place, ce truc-là, arrivé sur le plateau. Je leur disais cette phrase, ce qui compte au théâtre, c'est entrée, très bonne sortie, et au milieu, on se démerde. Et donc, une fois qu'ils avaient compris ce truc-là, donc elles savaient vraiment bien entrer, savaient vraiment bien sortir, puis au milieu, ben voilà, on trouvait des solutions pour qu'il se passe un truc au milieu. Et l'adresse, c'est vraiment des éléments les plus importants dans le travail, c'est-à-dire que ça fait partie un peu de ce rapport de soi aux autres, il faut qu'on adresse la parole. Donc, il faut parler à l'autre. Et parler à l'autre, ça veut dire le rendre présent, même si on ne le voit pas, faire cette adresse, le regarder, lui dire c'est à toi que je parle et je te dis ça et c'est moi qui te le dis et c'est personne d'autre et je veux que tu m'écoutes parce que c'est important ce que j'ai à te dire. Et du coup, cette parole adressée, ça, on a beaucoup travaillé sur la notion de comment on adresse sa parole et comment on ne loupe pas et comment on parle. Parce que du coup, c'est le protocole est simple mais très compliqué parce qu'on met un micro pour amplifier la parole, mais c'est un truc, on parle à vous, on vous parle. On vient vous causer, là. On a des trucs à vous dire et vous allez les entendre jusqu'au bout. Parce que nous, on n'a pas notre langue dans notre poche. Ma tête, c'est mon corps, c'est ma chair.
L'Antiquité confondait tout ce qui ne participait pas de la culture grecque sous le nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale par rapport à la culture humaine. Dans les deux cas, on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Race et histoire, Claude Lévi-Strauss, ethnologue, sociologue et père du structuralisme en France.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie là où le système en sorcelle. À coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses.
emporté par le vent. Aller dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Une nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix, plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai, moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre.
Le principe, c'est que j'avais envie de dire des choses, mais en fait, ma parole à moi, elle ne m'intéressait que dans un contrepoint d'une autre parole. Et donc, la parole de la jeunesse, notamment celle des quartiers populaires, elle est intéressante, parce que c'est des lieux d'exclusion, c'est des lieux de retrait, c'est des lieux où on dit des lieux de non-droit, entre guillemets. Donc, c'est intéressant de savoir comment ça parle dans ces endroits-là et qu'est-ce que ça raconte. Et donc, de voir comment cette parole-là elle peut s'articuler à la mienne, d'adulte. Et donc, du coup, y a un dialogue qui s'opère, qui va s'opérer sur le plateau, qui va s'opérer dans l'écriture, et qui va donner un autre son de cloche, et qui me donne à moi un autre son de cloche, et puis à eux, évidemment, ça leur donne un autre son de cloche, parce que c'est des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude, donc ils découvrent d'une certaine manière, et puis ils s'approprient des façons de faire, et ça, c'est extrêmement intéressant. Du coup, il y a un espèce d'enrichissement mutuel. D'une certaine manière, vous, sur le plateau, vous êtes presque des ready-made, c'est-à-dire que vous êtes déjà toutes prêtes, en fait, des œuvres prêtes, mais simplement, le fait que vous soyez sur le plateau, et avec le travail qu'on développe, eh ben, vous êtes plus que des ready-made, vous devenez vous-même actrice de votre vie et interprète de ça, donc il y a une certaine distance, et vous proposez une œuvre d'art qui est collective, qui est globale. Et je trouve ça... moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant dans l'aventure. C'est pas simplement de faire, entre guillemets, une catégorie de théâtre documentaire ou théâtre du réel, comme on a tendance à le dire souvent de ce genre de spectacle. Et moi, je trouve moins intéressant ces propositions théâtrales parce qu'elles sont un peu simplistes, alors que, ben voilà, écrire la pièce, la mettre en scène, trouver des idées pour faire émerger une certaine poésie. Ah, du coup, ça, c'est vachement intéressant. Et même pour vous, pour toi, Inès, qui veut peut-être faire du théâtre plus tard, tu es dans un parcours, ou toi aussi, Chérine, vous êtes dans un parcours qui est quand même un parcours de préformation, d'une certaine manière. Donc, vous apprenez des trucs. Si vous avez vraiment envie de poursuivre dans cette voie, il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise. Vous aurez appris une façon d'être sur un plateau, plein de trucs, c'est pas viens sur le plateau, on est là, on est présent, on fait un truc comme ça, et moi je fais une signature un peu d'œuvre en disant voilà, j'ai pris des êtres, je les ai mis là, un peu de lumière dessus, et c'est réglé. Ça, pour moi, ça serait insuffisant, quoi. Et je pense que le public, à la fois des quartiers, il vous admire, il vous aime, parce que vous êtes excellente. Parce que vous êtes excellente sur le plateau. Mais non, mais bien sûr que... Mais non, vous vous en rendez compte dans le travail qu'on a accompli.
Je sais juste que quand le public se lève et qu'il nous applaudit, je me dis « Ah, en fait, peut-être que c'était vraiment bien. » C'est juste à chaque fois quand le public nous parle et qu'on voit des gens pleurer. Hier, j'ai vu une dame, elle n'arrivait pas à arrêter de pleurer. J'avais envie de... J'étais sur le plateau, je la regardais, je lui souriais en tant que comédienne parce qu'elle me faisait trop mal au cœur, vraiment.
Tu es en train de jouer à ce
moment-là ? Non, on chantait.
On
chantait.
Ah ouais.
Et je la regardais, je souriais parce que... Elle me faisait trop mal au cœur parce que moi j'oublie complètement que je suis une comédienne à ce moment-là. Et puis elle me regarde et elle brillait des yeux, elle pleurait, elle nous regardait en souriant vraiment en disant oh, elle nous sourit. Alors que moi sur le coup je ne me rendais pas compte, c'était pour moi humain, arrête de pleurer, ça va, tu vois.
Après je ne m'explique jamais comment les gens ils ressentent ce spectacle, quelles histoires ils racontent à l'intérieur de vos histoires. J'ai absolument aucune idée de ce qu'ils se racontent comme film hein, dans leur tête.
Mais nous, on se rend pas compte, mais là, quand j'y pense, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Moi, quand je vais voir des pièces de théâtre, j'allais pas raconter ma vie, mon père, ma mère, avec 500 personnes qui m'écoutent et qui me connaissent pas, quoi. Mais là, ça intéresse tout le monde. C'est vrai que c'est un truc de ouf, par contre.
Moi, j'arrive pas à parler pendant
les échanges
Ouais.
Pourquoi?
Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, je les vois, ils me voient, alors que je sais pas comment expliquer.
Ouais. Il y a quand même la barrière du théâtre et du plateau, Amen. Après, quand on arrive en vrai, on habille avec nos tenues à nous, nos chaussures, nos chaussettes, nos hauts, et nous, c'est nous. C'est vraiment nous. Et qu'on arrive, et qu'ils viennent et qu'ils te voient encore comme celle qui était sur le plateau.
C'est trop. Moi, je me dis, mais c'est mieux, je parle pas, parce que si je dis n'importe quoi.
Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois plus commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Plus question de rester passif en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée, prête à tout ébranler. Même le système qui nous pousse à l'extrême. Mais NTM suprême ne lâchera pas les rênes et voler par toute la jeunesse défavorisée. Sa vérité engagée, le droit à l'égalité. Me voilà de nouveau prêt à redéclencher une vulgaire guerre civile et non militaire. Y'en a marre des promesses, on va tout foutre en l'air. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient.
Vous apportez quelque chose d'inhabituel au théâtre. Et cet inhabituel, il provient justement du fait que vous n'êtes pas des gens du métier, des personnes du métier, qui a donc une fragilité que vous pouvez avoir, mais en même temps une très grande force que vous donne cette fragilité. C'est-à-dire que vos histoires, la manière d'être sur le plateau, assez naturelle d'une certaine manière, vivante, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des plateaux de théâtre, les formes sont assez convenues en fait. Et donc par contre, c'est votre sensibilité à vous qui doit advenir. Et c'est parce que vous êtes toutes différentes les unes des autres et que vous avez des façons de marcher, de bouger, de parler, de vous exprimer. Et là, où à chaque fois, c'est comme si c'était une mise au monde. C'est-à-dire que vous arrivez sur le plateau, vous êtes dans la rue, il y a une petite différence entre ce que vous êtes dans la rue et ce que vous êtes sur le plateau. Une légère différence, quoi. C'est un peu comme si on avait mis un peu de couleur. Mais c'est quand même, ça reste toujours proprement vous. Les gens voient ça. Et donc, ils voient des gens qui leur ressemblent, mais avec un truc un tout petit peu décalé. Un tout petit peu un truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est ça qui fait la différence. Que soudain, ça devient de la poésie. Ouais, et donc, vous êtes des œuvres poétiques sur le plateau. Non, je dirais que c'est plus une aventure performative qu'un spectacle. Je suis passé enfant par la guerre d'Algérie. Je pense que j'ai vu des choses qui étaient douloureuses et j'ai mis 50 ans à les exprimer sur un plateau. Pour moi, le plateau, c'est que c'est un endroit en fait, qui est vierge, comme la page blanche de l'écrivain, c'est un pays sans frontières. Et en fait, la question de la frontière, moi, elle a traversé toute mon histoire, l'histoire de ma famille, en fait. Donc on s'est toujours trimballé avec des frontières dans la tête, des frontières qui n'étaient pas forcément les frontières que notre pays d'origine, l'Algérie, avait imaginé, avait conçu. C'est les frontières qui avaient été dessinées. Parce que quand on regarde les frontières en Afrique, elles sont dessinées au cordeau, à la règle, quoi. Donc, il y avait cette question de la frontière et que la page blanche ou le plateau, c'est vraiment le pays sans frontières. Parce que, dans le fond, un pays aussi beau qu'un théâtre, c'est-à-dire ce grand espace vide dont parle Peter Brook, on entre sur le plateau et on dit... Je suis au Groenland. Et il n'y a pas besoin d'avoir de glace ou rien. Et on est au Groenland. Et on va se transporter au bout de la terre. Donc il n'y a pas de frontière temporelle et il n'y a pas de frontière géographique. Et je pense que c'est là, assez jeune, j'ai compris ce truc-là. J'ai dit, en allant là, bah dans le fond, je vais dans un endroit qui est partout et qui est nulle part. Et quand elles sont sur le plateau, les filles, elles sont exactement au même endroit où moi, j'ai été quand j'ai découvert le théâtre et que j'ai compris ça. Dès que j'ai compris ça, je dis, ouais, il y a vraiment un endroit que c'est une boîte noire, on rentre dedans. Et puis là, ça y est, on oublie tout, on ne sait pas.
Ça n'engage à rien.
Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cette émission et de laisser la parole à Chirine, je tiens évidemment à vous rappeler que vous pouvez aller applaudir ces 10 flammes sur scène le 27 et 28 avril prochain au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly.
et je tiens également à vous préciser qu'elles seront présentes cet été au Festival d'Avignon. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier infiniment d'avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique, l'homme qui rend tout cela possible, l'homme aux doigts d'argent, le magnifico, j'ai nommé l'incroyable Mosquito alias Nicolas. Merci mon pote. Un très grand merci à l'équipe du CDN et à Nathalie Labaye pour son soutien précieux. Un grand grand merci à toute l'équipe du spectacle Flamme et à Ahmed Madani pour leur accueil et leur disponibilité. Bien sûr, un énorme big up à Inès et Chirine pour avoir partagé avec nous leur texte enregistré sur scène en live, ainsi qu'à Marine Tomrel qui a eu la gentillesse de prêter sa voix au texte de Lévi-Strauss. Enfin, un grand merci à Fred Renda pour son écoute et son coup de main. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez écouter à nouveau cette émission en balado-diffusion sur radiohdr.net ou sur la page Facebook de l'émission « Ça n'engage à rien ». N'hésitez pas à réagir et à partager sur ce même support. À très vite pour de nouvelles aventures et aimez-vous. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, mademoiselle.
Je m'appelle Chirine, j'ai 21 ans et j'habite à Arnouville, dans le 95. Et ce que je fais aujourd'hui, là je suis comédienne dans Flamme. Et ce que je faisais avant, je faisais mes études et je travaillais dans un bureau d'ingénierie de ma mère pour gagner de l'argent à côté. Et je faisais des petites missions d'hôtesse. C'est un ami à Ahmed qui me connaissait et qui m'a proposé de faire cette audition. Et je ne savais pas du tout, par contre, c'était quoi comme audition. Moi, j'adorais le théâtre, j'adorais depuis que je suis petite, j'adore le théâtre, c'était ma passion. Mon père, il me dit toujours, tu fais de la comédie, tu fais que ça. Et ça m'a toujours attirée, donc il m'a proposé de faire cette audition, son ami. Et du coup, j'y suis allée, mais je ne savais pas ce qui se passait, c'était pourquoi. Et quand je suis arrivée dans l'audition, c'est vrai ce qu'il dit, c'était plus une rencontre, c'était un peu une audition. Je me dis, mais c'est pas une audition, enfin, c'est bizarre, on parle de nous, c'est nous. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai suivi mon instinct, mon destin, et aujourd'hui je suis dans Flamme.
Je m'appelle Chirine, j'ai 21 ans. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. C'est mon père qui a choisi ce sport. Il s'inquiétait pour moi. Il avait peur que je me fasse violer dans la rue. Et il voulait que je puisse me défendre. Maintenant, je suis ceinture noire. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand un violeur s'approche de vous. Alors, il y a un coup de pied qui fait très mal si vous touchez les parties génitales. Hein. C'est un coup de pied qui part du bas vers le haut et remonte avec vigueur. La cuisse très ferme et la jambe la plus droite possible pour que la douleur soit la plus atroce possible. Faut avoir aucune compassion pour les violeurs. Ensuite, il y a le coup de poing à la glotte. Très efficace. Très sensible, la glotte. Le violeur aura très mal, il ne pourra plus respirer et tombera dans les pommes. Et pour finir, je vous propose un petit coup de pied circulaire dans les côtes. Ça lui fera pas de mal. Et pour les plus récalcitrants, je vous propose la totale. Moi, je me suis jamais servi de ces coups. C'est la peur qui provoque la violence de l'autre. Si vous n'avez pas peur, personne ne vous fera de mal. Un jour, on était à table. Et j'ai dit à mon petit frère, lève-toi, débarrasse avec nous. Et mon père a dit, il débarrasse pas. C'est pas à lui de débarrasser. Comment ça, c'est pas à lui de débarrasser? J'ai commencé à péter un plomb. Et il s'est levé pour me frapper. Là, j'ai vraiment pété un plomb. Je lui ai manqué de respect. J'avais jamais manqué de respect à mon père. Je suis partie dans une folie. Cette folie-là, c'était à cause de ma mère et de son histoire avec mon père. C'était leur folie. Et je lui ai dit, tu veux me frapper? Tu peux me frapper? Frappe-moi.
Moi, j'ai pas peur de tes coups. Si pour toi être un homme, c'est de frapper une femme, alors frappe-moi. Je me suis plantée devant lui. Il a vu dans mes yeux. J'avais le regard noir. Même ma mère m'a pas reconnue. Et je me suis mise en garde. Pas la garde. Maintenant, papa, frappe-moi. Vas-y, papa. Frappe-moi. Je serrais mes poings. J'avais envie de le frapper. Mon père m'a regardé et il savait que j'avais vraiment pas peur. Alors il s'est rassis. Ensuite, je suis allée voir ma mère dans la cuisine et la première chose qu'elle m'a dite, c'est « T'as vu ? Quand un homme a peur, il se rassoit. » Mais oui, maman, un homme, c'est un être humain comme les autres. Le soir, mon père était vraiment mal. Je m'en suis voulu. Mon père a toujours donné son meilleur pour moi. Et cette force que j'ai en moi, c'est lui qui me l'a transmise. Et le premier homme contre qui j'en ai usé, c'était lui. Alors je suis allée le voir. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai dit « Tu sais, papa, je t'aime. » Et il m'a répondu « Va dans ta chambre, ma puce. »
My hair, I got my hair.